Réparation, chapitre 5. Quelques semaines plus tard, Philippe, conduisant lui-même son attelage, traversait, au pas ralenti de la jument, les faubourgs extérieurs de la ville. Tout le long des rues mortes, des badauds indifférents suivirent des yeux le passage bruyant du véhicule, jusqu'à ce qu'il fît halte, enfin, devant la porte, où, un mois auparavant, Philippe avait déposé Isabelle. Presque au même instant, l'heure de la sortie de classe sonna, et la petite fille ne tarda pas à rejoindre son père. Assis l'un près de l'autre, ils roulèrent du côté de la campagne. Droite et sérieuse, Isabelle, les yeux perdus devant elle, ne disait pas un mot. Et ce silence d'enfant, ce silence voulu, avait quelque chose de lourd, d'oppressant. Philippe le rompit enfin d'un ton gai. « C'est moi qui ai voulu venir te prendre aujourd'hui, Isabelle. Devine pourquoi, voyons. Devine. » La petite fille redressa vivement sa tête blonde aux cheveux flottants. Elle attacha un moment ses prunelles claires, questionneuses, sur le visage de son père, puis elle se détourna et dit « Je ne peux pas deviner, moi. Pourquoi ?»« Aujourd'hui, mon enfant, je puis enfin te rassurer. Il n'y a plus aucune inquiétude à avoir au sujet de Lucien. Le navire a touché Marseille. Es-tu contente ?» Isabelle ne répondit rien, et son visage ne trahit aucune joie. Il resta soucieux et fermé. Philippe continua. « À présent, Isabelle, tu vas retrouver ta gaieté, n'est-ce pas ? Il est temps d'en finir avec toutes ces chimères. J'étais si heureux de t'apporter cette nouvelle et tu ne me réponds même pas. Pourquoi n'es-tu pas tout à fait contente, voyons ?» Et impatienté du silence obstiné de l'enfant, il la stimula. « Mais parle au moins. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais, voyons ?» Isabelle murmura sourdement. « Lucien n'aimait pas à s'en aller ainsi tout seul, bien loin. » À son tour, Philippe garda le silence. Au bout d'un instant, Isabelle demanda « C'est lui qui a écrit ?»« Non, mais il écrira prochainement, et si la vie maritime lui déplaît, il le dira. »« Est-ce à maman qu'il écrira ? Ou bien à qui ?» En même temps, elle fixa sur son père un regard scrutateur. « Je ne sais pas, mon enfant, peu importe du reste, il écrira, cela suffit. » Et il réfléchit un instant. Il ne regardait plus sa petite fille. Ses yeux erraient devant lui, et il apercevait déjà, comme un point blanc perdu dans la verdure, la maison où il avait connu des jours si heureux. De ce passé lointain, rien ne lui restait plus que cet enfant. Et aujourd'hui, entre la fillette et lui, quelque chose avait surgi. C'était comme une mésintelligence sourde et opiniâtre, où allait se briser l'ancienne spontanéité confiante d'Isabelle. Jamais avec la mère il n'avait connu cette angoisse-là. Il reprit enfin d'une voix contenue « Qu'est-ce que tu penses de moi, Isabelle ? Ne sais-tu pas que c'est Lucien qui a demandé à s'en aller ? Est-ce que je l'aurais fait partir contre son gré en le violentant ? Est-ce cela que tu crois ?» Et pour la première fois depuis qu'il avait cédé à l'irritation que lui causait la présence de Lucien à côté de Germaine, il perçut un instant dans sa conscience un remords défini, un vulgaire remords qu'il obsédait constamment de sa présence, qu'il écrasait secrètement de son poids. Mais il le chassa aussitôt avec impatience. Ce n'était pas à lui, c'était à Germaine que cet enfant avait été confié. Pourquoi n'avait-elle pas su le défendre ? Jusqu'à l'entrée de la voiture dans la cour, ni le père ni la fille n'ouvrirent plus la bouche. Mais dès qu'ils eurent franchi la grille, Philippe sauta à terre, enleva sa fille dans ses bras et la tint un moment pressée contre sa poitrine. Il murmurait entre ses dents serrées « Jamais ta mère ! Jamais ta mère ! Pourquoi ne dis-tu rien ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ? » La petite fille colla sa joue fraîche à la figure de son père et elle balbutia faiblement « Papa, papa !» Mais à peine l'eut-il libérée de son étreinte qu'elle se sauva en courant. Philippe la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu, puis il jeta les rênes à Joseph et il entra vivement dans la maison. À une fenêtre du rez-de-chaussée, il venait d'apercevoir la silhouette menue de Germaine. Et l'idée que sa femme guettait son arrivée, qu'elle allait venir au-devant de lui et qu'il lui faudrait subir l'éternelle interrogation de son regard anxieux, lui était insupportable. Avant qu'elle pût le rejoindre, il monta rapidement chez lui, ferma la porte avec bruit et, debout près du seuil, il prêta l'oreille, espérant se convaincre que Germaine ne l'avait pas suivi. Mais déjà le pas léger gravissait les escaliers. Il l'entendit traverser le corridor et la jeune femme entra. Elle avança jusqu'au milieu de la chambre, hésitante, attendant, à défaut d'un mot de bienvenue, un accueil quelconque. Mais Philippe la laissait approcher sans ouvrir la bouche. Elle l'interpella enfin, la voix tremblante. « Philippe !» Il dit froidement « Je suis très fatigué, je suis monté chez moi pour me reposer un moment. » Elle balbutia, suppliante. « Ne me renvoyez pas ainsi. Non, Philippe, laissez-moi. Laissez-moi. » Et elle fondit en larmes, la tête entre ses mains. Elle pleurait à perdre haleine, et il la laissait pleurer sans chercher à l'apaiser. Ce qu'il aurait fallu dire pour la calmer, il ne pouvait pas l'arracher à ses lèvres rebelles. Non, cela lui était impossible. Impuissant en face de ce chagrin violent, il restait muet. Peu à peu, les larmes de Germaine s'épuisèrent, elles se séchèrent d'elles-mêmes. Le souffle encore haletant, brisé, la jeune femme murmura « Quand nous sommes arrivés ici, vous me disiez que nous marcherions la main dans la main, comme sur cette plaine où l'on va... Et à cause de ces paroles, j'aimais ce pays plat aux étendues interminables. Pendant vos absences, je le regardais et son silence s'animait. Aujourd'hui, je le trouve d'une tristesse à mourir. Pourquoi m'avoir trompé ainsi? Vous m'accusez, moi, mais c'est votre cœur à vous qui a changé. » Philippe resta longtemps silencieux. Rien ne vibrait dans son âme à l'appel douloureux. Non, rien. Et il cherchait en vain dans sa tête une des paroles rassurantes qui jaillissaient jadis sans effort de sa vivante passion. Enfin, il répéta lentement, comme s'il se posait à lui-même la question inquiétante « C'est mon cœur qui a changé ?» Et il alla jusqu'à la fenêtre, regarder, au loin, s'étendre la plaine, et tout près, s'effeuiller les arbres roussis par l'automne. Puis il revint à Germaine et lui dit abruptement « J'ai enfin eu des nouvelles aujourd'hui. Il est arrivé sain et sauf à Marseille. » Et d'un ton de plus en plus agressif, il continua sans reprendre haleine. « Autrefois, quand je parlais d'envoyer cet enfant au loin, votre silence et votre attitude protestaient. Mais depuis qu'il a disparu, vous n'avez plus une pensée pour lui. Qu'il vive ou qu'il périsse, qu'il soit content de son sort ou qu'il se ronge de regrets, que vous importe? Vous aussi vous avez changé. Ou, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi donc n'aimez-vous pas cet enfant qui vous avait été confié à vous? À vous? Si vous aviez eu le courage de le défendre, je n'aurais pas aujourd'hui cette amertume. » Un flot de sang empourpra le teint blanc de Germaine. Elle demeura quelques secondes assommée par le reproche inattendu, puis elle éclata à mots hachés. « C'est mal ce que vous faites, Philippe. C'est faire renaître, sous une forme nouvelle, la persécution que vous m'avez fait subir autrefois au sujet de cet enfant. Tant qu'il a été avec nous, vous l'avez poursuivi de votre animosité. Je me cachais comme une coupable pour m'acquitter des soins nécessaires à son bien-être matériel. » Vous me pourchassiez d'observations acerbes, et aujourd'hui, c'est moi qui porte la responsabilité de ce que vous avez voulu. celui qui a fait partir cet enfant. C'est vous, ce n'est pas moi. » Elle s'arrêta, suffoquée. Philippe la quitta brusquement et il retourna regarder par la fenêtre. Les ors sombres de l'automne roussissaient le feuillage encore touffu et des feuilles continuaient à se détacher sans bruit des branches. Elles tombaient en se dandinant et s'accumulaient sur le sol. Dans quelques jours, le squelette nu et noir des arbres se dresserait sec, dégarni et désolé. Et il semblait à Philippe qu'une même brise meurtrière passait sur sa vie, au seuil d'une saison stérile, et la dépouillait entièrement des joies d'autrefois. Isabelle s'éloignait de lui, et désormais un gouffre le séparait de Germaine. Il ne pouvait plus se faire d'illusions sur ce point. Rien ne rendrait jamais à sa femme ce qu'elle désirait, à l'exclusion de tout le reste. Il ne partagerait jamais plus la passion unique et violente qui la possédait. Et jamais il ne lui dirait le mot qui la ferait rentrer triomphante dans l'ancien cadre de leur vie. Tant que Germaine n'aurait pas accepté son sort les yeux ouverts, comme lui-même acceptait le sien, de leur plus léger contact, de chacune de leurs paroles, la même mésintelligence irritante surgirait. La jeune femme l'avait rejoint près de la fenêtre, et son œil douloureux s'attachait à lui avec une fixité suppliante. Elle l'interpella enfin. « Philippe, dites-moi au moins ce que j'ai fait, ce que vous me reprochez. » Il l'interrompit froidement. « Ne me faites pas toujours cette même question, Germaine. C'est irritant à la fin. Je n'ai rien à vous reprocher. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'après avoir soigné cet enfant comme la prunelle de votre œil pendant des années, vous l'ayez laissé partir sans dire un mot pour le défendre. » Germaine se tut, glacée. La barrière dressée entre sa passion et la réalité s'élevait devant elle comme un infranchissable mur de pierre. Elle le touchait du doigt. Elle n'en pouvait plus douter. Ses lèvres frémissantes restèrent closes, tandis que le froid d'une séparation définitive glissait dans son cœur comme une lame d'acier. Une saison de sa vie se clôturait tragiquement. Elle s'achevait sans espérance de renouveau. Et une ombre planait sur les jours à venir. Une ombre pesante, au flanc chargé d'inconnu. Chapitre 6. Isabelle, comment te sens-tu ce soir? À la voix de son père, la jeune fille sourit faiblement et l'émail pur de ses dents se montra une seconde entre les lèvres entrouvertes, puis il disparut. Elle dit « Mais bien, bien !» Étendue sur le sable, un châle plié sous sa tête, elle regardait la mer nue, frileuse et frissonnante, s'enveloppait de la pourpre du couchant. Un grand chapeau de feutre blanc rabattu sur son visage cachait l'expression de ses yeux. Germaine, un livre ouvert sur les genoux, était assise à côté d'elle, et son regard errait au loin sans se fixer nulle part. Des flaques, restées prises entre des rocailles, étoilaient la plage de mare sanglante, et de grands rocs noirs accompagnaient la courbe gracieuse de la côte, la hérissaient de pointes, de saillies, d'écueils. Sur le sommet des falaises abruptes, l'herbe des sables, maigre et chétive, jetait un tapis de verdure roussâtre. Toutes les années, lorsque venaient les chaleurs suffocantes de juillet, Isabelle, que sa croissance rapide avait anémiée, prenait des pâleurs inquiétantes. Philippe l'emmenait aussitôt loin de la plaine brûlante où le sol saturé d'eau exhalait une atmosphère humide et malsaine. Il la conduisait tantôt ici, tantôt là, le long des côtes vertes et salubres de la Normandie. Jamais, bien que l'océan fût tout près d'eux, ils n'allaient le chercher dans leur patrie d'adoption. Sur le bout de plage que la mer venait d'abandonner, des bandes d'enfants folâtres, jambes nues, criaient à tue-tête. C'étaient des rires, des gambades, des appels, un croisement d'idées et de volontés, un vacarme assourdissant, que le bruit continu de la mer avalait en grondant. Dans la distance, une flottille de barques aux voiles gonflées glissait comme un vol d'oiseaux gigantesques sur la mer déserte, et Isabelle, attentive, en suivait les capricieuses évolutions. Le sourire qu'elle avait ébauché tout à l'heure pour satisfaire son père avait entièrement disparu. Le pli de sa bouche fermée était redevenu tendu et triste. Tout à coup, elle sortit de sa prostration, quitta vivement sa pose nonchalante, s'assit sur son châle et dit « Oh, voyez donc, maman, là-bas, un navire, un tout gros !» Et croisant ses mains sur ses genoux, elle regarda les tourbillons de fumée s'échapper des deux grosses cheminées. Le nuage gras s'élevait avec peine à quelques mètres, puis il rabattait sur l'eau son panache pesant, et la traînée noire s'allongeait, épaisse et persistante. Philippe se leva. Depuis qu'Isabelle avait interpellé sa belle-mère, il n'avait pas cessé d'observer sa fille. Il dit, sans la quitter des yeux, « Le froid va venir, Isabelle. Voici le vent qui se lève. Il faut marcher à présent. » Le soleil venait de sombrer dans les vapeurs, et au même instant, une fraîcheur était tombée. Un voile gris, uniforme, enveloppa tout à coup l'espace, tandis qu'une brise glacée chassait les nuages éteints, les roulait avec effort les uns sur les autres du côté du couchant. Isabelle et Germaine se levèrent simultanément, et tous les trois ils s'en allèrent du côté de la mer. L'immense nappe mouvante, au-dessous glauque, commençait à se crever ici et là, lançant au vent des floraisons d'écume. Les trois promeneurs s'approchaient de l'eau sans parler. De temps en temps, Philippe s'efforçait d'apercevoir le visage d'Isabelle, mais les bords du grand chapeau mou le lui dérobaient. L'expression triste du fugitif sourire qu'il lui avait arraché tout à l'heure le poursuivait douloureusement. Que de fois, pendant les 6 années qui venaient de s'écouler, si lentes, si longues, il avait interrogé Jacques au sujet de cette tristesse tenace qu'aucune distraction ne tentait. Toujours il avait reçu la même réponse laconique. « Elle n'a rien !» Quand, mécontent de ce diagnostic péremptoire, qui ne diminuait en rien son inquiétude, il insistait, le docteur ajoutait quelquefois « Aujourd'hui, on n'y peut plus rien, ni toi ni personne. Elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. » De loin en loin, il concluait brusquement « Toujours pas de nouvelles ?» Philippe répondait d'un ton bref « Aucune. » Et l'entretien s'arrêtait net. Isabelle avait obstinément refusé d'aller passer une saison à Paris. Elle aimait mieux rester à la maison avec Germaine, l'aider dans les soins domestiques, la soulager des tracas de son intérieur, comme si la société de sa belle-mère avait pour elle un charme plus grand que l'attrait de tous les plaisirs. Si, parfois, exaspéré de la préférence ouverte que ce choix témoignait à sa femme, Philippe s'efforçait d'arracher Isabelle à des préoccupations où il n'avait point de part, s'il essayait de réveiller un écho de l'ancienne gaieté, vive et bruyante de la petite fille d'antan, Isabelle, au lieu de rire comme autrefois des saillies de son père, s'attristait davantage. La joie factice de Philippe semblait lui faire un mal aigu. Alors, le père, mordu au cœur par une jalousie insupportable vis-à-vis de Germaine, s'en allait galoper à travers la campagne pendant des heures. Quelquefois il s'arrêtait chez Jacques, poussé par un désir ardent de se plaindre de l'attitude d'Isabelle, ou d'accuser tout haut devant quelqu'un la sournoise influence à laquelle il attribuait la froideur de sa fille. Mais une fois en face de son ami, il ravalait brusquement son chagrin. Il y avait eu, pendant les 6 dernières années, une altération dans ses rapports avec Jacques, un imperceptible changement qu'il ne parvenait pas à définir et qui gênait la libre expression de ses rancunes touchant sa femme. Il ne prononçait plus jamais le nom de Germaine quand Jacques était présent. Mais depuis qu'Isabelle avait cessé d'être une enfant taciturne, presque morose, qu'elle était devenue une grande jeune fille, tranquille et sérieuse, quelquefois le père, lorsqu'il se trouvait seul avec son ami, lui disait à brûle-pourpoint « Elle t'aime, toi. Elle écoute ce que tu lui dis. Elle fait tout ce que tu veux. N'aie pas peur, je ne suis pas jaloux de l'amitié qu'elle a pour toi. Au contraire. Mais avec l'influence que tu as prise sur elle, est-ce que tu ne peux donc rien faire pour me la rendre ? Tu pourrais si tu voulais. » Et il regardait son ami fixement, comme pour mieux faire pénétrer dans ce cerveau étranger l'idée qui avait germé dans le sien au milieu de l'angoisse et du chagrin, et que ses lèvres hésitaient à formuler tout entière. Mais Jacques se récusait toujours, surpris. « Moi ? Allons donc ! Je suis bon tout au plus à embellir un peu la solitude de sa jeunesse. Voilà tout. Je ne sais pas ce que tu t'imagines, Philippe. » Philippe se taisait. Mais l'intimité qui unissait Jacques et Isabelle restait un rayon d'espoir vague auquel son cœur inquiet s'accrochait. Sans ouvrir la bouche une seule fois, les trois promeneurs traversèrent dans toute sa largeur la plage sablonneuse. Et lorsque la lisière d'écume vint effleurer leurs pieds, ils s'arrêtèrent côte à côte en face de la mer. Au bout de quelques secondes de contemplation muette, Philippe dit en regardant sa fille « Il est temps que j'aille à la rencontre de Jacques. C'est ce soir qu'il arrive. Tu t'en souviens, Isabelle ?»« Si je m'en souviens, ce bon Jacques. Oui, c'est ce soir qu'il arrive. Vous nous l'amènerez tout de suite, n'est-ce pas ?» Et soulevant le bord du chapeau que la masse des cheveux tordus derrière la tête rejetait toujours en avant, elle montra enfin à son père l'ovale de son visage délicat. La brise de mer animait la peau d'une teinte rosée, mais en dépit de cette fraîcheur d'emprunt, la physionomie conservait un air maladif et las. Elle ajouta « Ou bien nous irons à votre rencontre le long des falaises. Qu'en pensez-vous, maman ?» Germaine acquiesça d'une voix vide. « Je ferai tout ce que vous voudrez, mon enfant. » Philippe fronça ses sourcils noirs et s'éloigna rapidement. Les deux femmes continuèrent à marcher sur la grève mouillée. Isabelle, grande, svelte, le buste serré dans une jaquette de drap sombre, Germaine, fluette, amaigrie, consumée. Elles allaient devant elles le long de la lisière d'écume, contournant les rocs noirs dont les aspérités menaçantes émergeaient du sable. Autour de ces récifs, qu'à chaque marée l'eau recouvrait en grondant, des paquets d'algues abandonnées par la mer traînaient en désordre. Une odeur forte, pénétrante, montait de ces amas de varechs détrempés. Et sur les lourdes grappes gonflées d'eau, des myriades d'insectes gris pullulaient, allaient, venaient, sautaient, s'agitaient dans une folle ivresse de mouvements. Chaque fois qu'une de ces fourmilières d'êtres presque imperceptibles se trouvait sous ses pas, Isabelle ramassait dans ses mains les plis de sa robe de laine blanche et elle s'arrêtait net. De la pointe de son ombrelle, elle remuait le tas de varechs et de tout près, longuement, elle considérait les bonds désordonnés de ce petit monde remuant. En même temps, le souvenir de Lucien et de son amour pour les choses de la nature, ce souvenir puissant qui remontait tout vivant du passé chaque fois qu'elle était en contact avec les fleurs, les plantes, l'air, le soleil, tout ce qui constitue la vie intime de la terre, la saisissait brusquement. Elle restait penchée sur le sol, le cœur déchiré de regrets. Ni le passage de tant de jours monotones, ni les efforts désespérés de Philippe n'avait diminué en rien l'obsession de cette réminiscence tenace enracinée au fond de sa mémoire. Elle était demeurée aussi vivace qu'au premier jour, comme si quelque stimulant secret caché dans un repli mystérieux de son âme l'y ranimait sans cesse. L'ombre descendait et déjà la ligne de l'horizon s'effaçait dans le vague brumeux du lointain. À l'ouest, à l'extrémité d'un roc aigu, le feu d'un phare venait de s'allumer. Très avant, dans la mer, il étincelait, fixe et solitaire. Germaine dit, indifférente, « Il faut aller à présent, mon enfant. » Isabelle passa familièrement son bras sous celui de sa belle-mère, et les deux femmes traversèrent le bourg pour aller rejoindre la route des falaises. Elles se parlaient à mi-voix, intime. « Quelquefois, maman, dit Isabelle, je voudrais redevenir toute petite. Il y a tant de choses qu'on ferait aller différemment si l'on pouvait seulement tout recommencer depuis le premier jour. Chaque fois que je pense au passé, j'ai cette impression. Et vous ? » ?»« Non, dit Germaine, la bouche amère. À quoi bon ? Nous serions toujours entourés des mêmes apparences, des mêmes mensonges. Il n'y aurait rien de changé. » Isabelle ne répondit pas. Mais au bout d'un instant, elle entoura de son bras la taille frêle de sa compagne et la pressa contre elle silencieusement. C'était le seul moyen dont elle disposa pour exprimer sa sympathie au sujet d'une épreuve, devinée depuis longtemps, et que son propre père infligeait. Ainsi enlacées, elles firent quelques pas sans parler, puis elles reprirent l'entretien interrompu. À l'autre bout de la blanche chaussée, Philippe et Jacques s'étaient rejoints depuis longtemps. Dès qu'ils furent sortis de l'encombrement bruyant de la gare, Philippe ralentit le pas. Il interrogeait à la dérobée le visage sérieux de son ami et attendait, dévoré d'impatience, qu'il ouvrît le premier l'entretien. Agacé de son silence, il le stimula enfin un peu sèchement. « Pourquoi ne dis-tu rien ? N'as-tu pas reçu ma lettre ?»« Si, Philippe, je l'ai reçue, et je l'ai méditée toute la nuit. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est encore la plus grande preuve d'affection que tu m'aies donnée. Et pourtant, comment faut-il t'expliquer cela ?»« Et pourtant, acheva Philippe froidement, tu ne veux pas. Ce projet ne cadre pas avec les tiens. Dis franchement ta pensée. Va, ne te gêne pas. » « Je ne veux pas te laisser t'enfoncer dans un monde de chimères. Voilà ce que je ne veux pas. Si je te prenais au mot, tu serais le premier à me le reprocher un jour, tout haut ou tout bas. Il faut voir les choses raisonnablement et les accepter telles qu'elles sont. Isabelle est beaucoup trop jeune pour moi. Laisse-moi continuer à l'aimer sans autre ambition que de conserver le plus longtemps possible ma place d'ami préféré. Ce qu'il lui faut pour le moment, c'est l'apaisement, le calme d'esprit, la tranquillité, voilà tout. » Philippe répéta lentement. « L'apaisement, le calme d'esprit, la tranquillité, bien. Comment les lui donner ? Le moyen, indique-le-moi. » Jacques se tut embarrassé. Toute son expérience pratique des maux du corps ne lui suggérait rien pour procurer à Isabelle l'oubli d'un fait lointain, resté trop vivant dans son esprit. Là était le mal, et aujourd'hui personne n'y pouvait rien. Philippe reprit. « Il faut donc se résigner à la voir s'étioler en plein soleil de jeunesse. Il faut que je me contente de la regarder de loin, passer tous ses jours à côté de Germaine. Et tout cela, pourquoi ? Pourquoi ?» Il s'interrompit, regarda la mer qui venait d'apparaître au détour de la route, fermant l'horizon d'une ligne droite, corrigea avec effort sa pensée dirigée sur Germaine et ajouta. « Parce qu'un jour, sans réfléchir, sans m'attarder à considérer le pour et le contre des choses, j'ai cédé à l'antipathie que cet intrus accroché au jupon de Germaine m'inspirait. « Pourquoi as-tu fait cela, Philippe ? » dit Jacques vivement. « Je ne l'ai jamais compris. »« Pourquoi j'ai fait cela ? » répéta Philippe très excité. « Et comment faut-il t'expliquer ? Dès le début de mon mariage, la présence de cet enfant m'avait été antipathique. Il me semblait que Germaine s'occupait trop de lui. Oui, en vérité, j'étais aveugle, au point de le croire, et cela méritait à toute heure, sourdement. J'accusais cet hôte étranger d'empêcher l'ancien bonheur de revenir. Je croyais que c'était lui qui créait entre Germaine et moi la distance que je sentais grandir tous les jours. Et je l'ai haï d'une haine stupide, égoïste, aveugle, jusqu'au moment où, froidement, Germaine me déclara qu'elle n'avait jamais aimé ce garçon. Mais pourquoi donc n'aimait-elle pas cet enfant, confié à sa sollicitude par un mourant ? Il marcha un moment d'un pas nerveux, puis il reprit. Elle disait cruellement vrai, elle ne s'était jamais souciée de lui. Ce jour-là, je compris trop tard que ce n'était pas la présence de Lucien qui était l'obstacle entre nous, que c'était autre chose. Je ne l'aimais plus comme elle l'aurait voulu. Voilà ce qui nous séparait. Sans laisser place à une interruption, il poursuivit. Et aujourd'hui, elle se venge en me prenant mon enfant. Elle me l'enlève tous les jours davantage, sans que je réussisse à déjouer ses artifices. Toi seul, tu aurais pu nous garantir d'un esclandre public, mais tu ne veux pas. » Il ajouta, amer, « Cela te semble donc si difficile que cela d'aimer cette pauvre enfant qui s'appuie sur toi avec tant de confiance ?» Jacques murmura, agité. « Ne me trouble pas inutilement, Philippe. Autrefois, j'ai fait une expérience très cruelle. Tout cela est passé aujourd'hui et je n'y pense plus jamais. Seulement, je ne pourrais pas envisager une seconde épreuve comme la première. Ne me trouble pas inutilement, je t'en prie. Tous ces rêves de jeunesse entraînent Isabelle loin de moi. Elle n'a jamais vu en moi que l'ami de son père, avec lequel elle ne se gêne pas. Justement parce qu'étant l'ami de son père, il ne peut jamais être autre chose à ses yeux. » Il réfléchit une seconde, préoccupé. Pour la première fois depuis qu'il avait vu Isabelle se transformer lentement sous ses yeux, il eut la brusque impression que dans leur franche intimité, Philippe avait perçu un élément que lui-même n'y avait jamais soupçonné. Une inquiétude le mordit aussitôt au cœur, une tristesse d'appréhension, une souffrance sourde où se confondaient le souvenir du passé et la crainte des jours à venir. Il reprit avec effort. « Elle n'a pas 20 ans, et j'en ai 35. Ce serait la sacrifier au seuil de la vie. Est-ce cela que tu veux ? Dis. D'ailleurs, qu'importe, c'est elle qui ne voudra pas. » Philippe s'arrêta brusquement, et saisissant les deux mains de Jacques, il les serra, les secoua en murmurant d'une voix entrecoupée. « Elle voudra ! Je te dis, moi, qu'elle voudra ! Elle t'aime plus que tu ne crois ! Elle voudra !» Jacques resta silencieux. Son sang s'était mis à battre lourdement dans ses veines. Il reconnaissait avec angoisse ce martèlement pesant qui n'était plus revenu depuis l'heure de sa cruelle déception. Il dit enfin d'un ton décidé, « Je persiste à croire que tu te trompes, Philippe. En tout cas, tu ne diras rien de tout ceci à Isabelle. C'est moi qui lui parlerai. Je lui parlerai au moment que je choisirai. Je te défends de l'influencer, comprends-tu? Si l'ombre d'une surprise passe dans ses yeux, cela suffira à m'éclairer. » Il venait de franchir le point culminant de la route, et le petit bourg apparut tout à coup très loin avec ses lumières jaunes clignotant dans la nuit. Sur ce fond brouillé, piqué de feux vacillants, les silhouettes inégales de Germaine et d'Isabelle se détachaient brusquement tout près d'eux. Jacques soupira, oppressé. Déjà, Isabelle ne lui apparaissait plus comme la petite fille triste et songeuse qui avait grandi sous ses yeux. Elle venait à lui sous la forme d'un être attirant et redoutable. Si Philippe se trompait, c'en était fait de sa libre intimité avec la jeune fille, et la vie dépouillée de ses relations avec Isabelle lui semblait soudain un désert aride et sans fin. La joie du travail, où s'était noyé jusque-là le vide secret de son existence, ne lui suffirait plus. En dépit du sourire amical qui l'ébaucha en abordant les deux femmes, Isabelle perçut sans peine une préoccupation, un souci, quelque chose d'insolite dans l'expression des yeux lumineux de son fidèle compagnon. Familière, elle saisit le bras de Jacques et l'entraîna. « Jacques, vous avez quelque chose. Qu'est-ce que c'est ?» S'il eût été seul avec elle dans ce moment, oui, dans le frémissement de se revoir si différent de celui qu'il avait anticipé, peut-être aurait-il osé l'interroger. Mais déjà, elle fixait sur lui un œil attentif, impatient, et elle ajoutait d'un ton changé « Un malheur ? Dites ? » « Non, Isabelle, non. » Il avait tout de suite saisi la pensée de la jeune fille, l'éternelle pensée harcelante qui avait empoisonné cette jeunesse en fleurs. Il la considérait sans parler, plongeant tout au fond des yeux aimants levés sur lui un regard scrutateur. Il dit enfin en hésitant, comme s'il abordait un terrain inconnu où tout à coup son pied pouvait enfoncer. « Il ne faut plus penser obstinément au passé comme vous le faites, Isabelle. Aujourd'hui qu'on n'y peut rien changer, il faut l'oublier comme s'il n'avait jamais existé. » Elle fit quelques pas, les yeux baissés, puis elle dit, tendue, « Pourquoi me dites-vous cela aujourd'hui ? Vous me trompez, vous savez quelque chose. » « Non, je ne sais rien de ce que vous vous imaginez. Mais ce que je sais, ce que je vois, c'est que depuis des années vous vous rongez d'inutiles regrets et que, sans aucun profit pour personne, vous torturez votre père. Regardez-le. » Elle tourna vivement son visage blanc du côté de Philippe. Silencieux, vieilli, lassé, il marchait un peu courbé à côté de Germaine. Elle dit d'une voix basse, « Je ne peux pas faire autrement. C'est comme une chaîne qui me tient. Je ne puis pas la briser. » Son animation un peu factice était tombée. Toutes les lignes tristes de son visage avaient repris leur place et elle continuait de regarder son père comme si elle ne voyait plus que lui. Jamais elle n'avait perçu si clairement les flétrissures du visage et le changement de l'allure. Tout à coup, elle quitta le bras de Jacques et alla s'accrocher à celui de Philippe. Des deux mains, elle s'y cramponna et elle l'entraîna. Mais quand ils furent seuls, l'un à côté de l'autre, sur la route déserte, et qu'elle put librement lui parler sans être entendue de personne, de ses lèvres serrées, entr'ouvertes avec effort, un seul mot sortit. « Papa !» Il dit, content, « Fillette, est-ce que Jacques ?» Mais elle l'interrompit sourdement, hachant ses mots. « Ce n'est pas volontairement que je vous tourmente ainsi par mon attitude chagrine. C'est comme une chaîne qui me tient. Je ne puis pas être autrement. C'est comme une chaîne. » C'était la première fois, depuis que le départ de Lucien les avait séparés, qu'Isabelle faisait, devant son père, une allusion directe à son persistant chagrin. Il serra le bras tremblant qui frémissait sous le sien et murmura « Non, non, ce n'est pas ma faute, c'est... » Mais le nom de Germaine, qui était monté à ses lèvres, s'y arrêta. Cherchant en vain les mots qui fuyaient, ils atteignirent en silence les abords du bourg. Pourtant, quand Jacques et Germaine les eurent rejoints, Philippe jeta à son ami un regard reconnaissant. Si quelqu'un pouvait lui rendre la confiance et l'amour d'Isabelle, c'était l'auxiliaire qu'il avait choisi.